Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, une émission préparée par Charlie Dupio, Catherine Donnet, Virginie Leduo et Marie Vidal, réalisée par Anne Pérez, avec ce soir à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan. La nuit dernière, nous sommes tous égaux sur un point. Cela n'aura pas échappé à quiconque aura écouté ou lu au moins une fois un journal aujourd'hui. Nous vivons tous au-dessus de nos moyens. L'ONG Global Footprints Network calcule chaque année la date approximative à laquelle nous sommes censés avoir épuisé les ressources naturelles renouvelables que notre planète peut produire pour un an. Et chaque année, cette date avance de 3 jours dans le calendrier. Preuve que l'humanité continue à consommer tout en voyant ses ressources s'amoindrir de plus en plus rapidement. Il y a donc ces alertes et ces questions nombreuses sur la gestion de notre environnement et sur son inquiétante évolution. Il y a aussi un constat souvent partagé et peut-être encore plus à 5 mois de la conférence climat, la COP21. Un constat donc selon lequel certaines catégories de la population se sentent peu concernées, mises à l'écart d'une réflexion écologique perdue quelque part sur la scène politique. Ce n'est peut-être pas un hasard si les grandes colères collectives qui se sont faites entendre, que ce soit à Bure ou à Notre-Dame-des-Landes, portent en elles des revendications écologiques et citoyennes, comme si, à travers le refus d'une initiative d'enterrement de déchets nucléaires ou d'un grand projet d'aéroport, ceux qui se mobilisent veulent aussi montrer qu'ils peuvent, à leur manière, s'emparer de ce débat-là. La pensée écologique doit-elle donc sortir de la pure parole politique pour commencer, recommencer à exister au sein de la société ? Faut-il se réapproprier l'écologie et comment ? C'est notre sujet du jour. Et pour en parler ce soir, je reçois Benjamin Tinck. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes le cofondateur de WeShare.com, une plateforme de partage pour l'émergence d'une société collaborative. C'est ce qui est expliqué sur le site internet. Et vous lancez ce week-end la POC21, un village écologique, une sorte de grand atelier qui investira jusqu'au 20 septembre prochain le domaine du château de Millemont. On va revenir dans un instant sur cette initiative. Mais avant, je voudrais vous présenter nos autres invités. Vincent Liéger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous depuis les studios de France Bleu Bourgogne à Dijon. Vous êtes chercheur doctorant en économie à l'université de Budapest et porte-parole du Parti pour la décroissance, le PPLD. Et notre troisième invité est avec nous par téléphone. Il s'agit de Karima Deli. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes députée européenne Europe Écologie Les Verts, tête de liste dans la circonscription Nord-Ouest. Alors, le principe de ce village écologique que vous vous apprêtez à lancer avec votre équipe, Benjamin Tinck, cette POC21, c'est donc un lieu en open source, un village où 12 projets d'innovation écologique et qui viennent d'un peu partout en Europe, aux États-Unis vont être mis au point, une sorte d'atelier géant. J'aimerais qu'on s'arrête quelques minutes sur ce point d'open source pour l'éclaircir. L'open source, c'est un terme qui vient de informatique, au départ un code source ouvert, un logiciel libre dont le code est à la disposition du grand public, un système donc ouvert que chacun peut améliorer avec ses propres idées. Et dans le cadre de votre projet, Benjamin Tinck, et d'autres projets qui existent déjà aux États-Unis ou ailleurs, ça va se traduire par des échanges d'idées, de plans, de schémas de fabrication entre les différents participants qui seront sur place pour construire les objets qui répondront demain à nos besoins quotidiens sans polluer. Alors pourquoi ce terme d'open source est en train de devenir presque une sorte d'indissociable de l'innovation écologique, à votre avis ?
Alors,
déjà, est-ce que c'est le cas ?
Alors, indissociable, peut-être pas encore aujourd'hui complètement, en tout cas pas pour tout le monde. Après, ce que je trouve intéressant pour illustrer ce concept, c'est une citation d'un penseur justement du peer-to-peer et de l'open source qui s'appelle Michel Bowens. Et en fait, lui, il dit, mais aujourd'hui, on vit un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a, comme vous l'avez rappelé, on traite notre planète comme si les ressources étaient inépuisables et on les épuise inexorablement. Et à l'inverse, on a un système économique qui aujourd'hui repose sur finalement une rareté artificielle qu'on va instaurer sur les savoirs, sur la connaissance, sur la propriété intellectuelle. Et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas résoudre un problème en s'attaquant à l'autre ? Donc inverser ce paradoxe, c'est-à-dire s'appuyer sur une abondance d'informations, de savoirs, de connaissances, de créativité, d'invention pour résoudre les plus grands défis d'aujourd'hui, le défi écologique. Et finalement, l'open source dans POC21, c'est ça. C'est, on utilise la créativité de tous, on partage les savoirs, on met au pot commun finalement les inventions et les innovations et la technologie de tous.
Est-ce qu'on est dans une impasse en termes d'idées pour moins polluer, pour économiser l'énergie, au point de se voir obligé de partager, de mettre en commun des idées ?
Je pense que le fait de mettre en commun ne relève pas forcément du fait qu'il y a une impasse. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de solutions. Certaines sont meilleures que d'autres. Il y a aussi des fausses solutions dont il faut se méfier. Mais par contre, c'est un modèle économique qui vient un petit peu d'en bas, si vous voulez. C'est-à-dire que, comme vous l'avez cité, l'open source, initialement, ça vient du développement informatique, des développeurs qui développaient un logiciel et qui avaient constaté que, à la fois pour des raisons éthiques et philosophiques et à la fois par efficacité, il était finalement plus efficace de partager tous ces savoirs pour pouvoir s'appuyer sur les efforts des autres. Finalement, je donne, mais en même temps, je reçois. Hein. C'est finalement du don contre don. Et je peux aller plus vite parce que je peux réutiliser tout ce qui a été produit par d'autres. Et bien, dans la fabrication de solutions, c'est pareil. Et quand vous avez des projets qui émergent du bas, un collectif, une petite start-up, une association qui veut développer, ben, c'est aussi efficace de pouvoir profiter des créations, de l'inventivité des autres. Et puis, ben, en retour, de repartager ce qu'on a développé.
Karim Adeli, est-ce que ce concept d'open source, ça peut faire sortir l'écologie du débat politique pour attirer d'autres personnes, l'intérêt d'autres personnes qui ne seraient pas forcément attirées justement par le débat écologique politique?
Alors, ce qui est très intéressant dans le projet POC21, c'est de dire que lorsqu'on parle du climat ou de l'écologie, on en parle de manière positive avec des solutions. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, on a parlé du réchauffement climatique, il y a eu des alertes. Il y avait quand même un discours un peu fataliste et catastrophique. Aujourd'hui, on pense plus à dire il y a des solutions. Alors c'est vrai qu'il y a eu des négociations sur le climat. La dernière en date était il y a 6 ans à Copenhague, où on attendait des leaders politiques qui mettent en route la société. Mais aujourd'hui, ça s'est inversé, c'est la société qui est en route, avec plein de citoyens qui inventent, qui innovent. Alors que moi, j'aime dans cette initiative POC21, c'est que aujourd'hui, on a à cœur de se dire que des projets durables sont capables de lier notamment innovation et écologie, ce qui est assez nouveau. La deuxième chose, c'est que ça va concerner tous les domaines dont on a besoin. C'est-à-dire que là, vous proposez une espèce de village alternatif, ce qui est assez exceptionnel, mais ça existe déjà, par exemple, dans l'habitat, ça existe dans l'alimentation, dans l'agriculture. Donc, il y a tous des concepts d'open source qui sont déjà présents aujourd'hui. C'est que ces solutions sont très intéressantes, mais elles s'adressent, je pense, à un public d'initiés. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est que ces solutions qui sont aujourd'hui des micro-solutions deviennent des macro-solutions et qu'elles soient généralisables. Et c'est pour ça aussi, c'est que ça fait du bien pour la politique aussi d'être des vrais relais de solutions, parce qu'on est en train de rentrer dans le 21e siècle, donc on ne peut pas porter les solutions, et vous l'avez très bien dit, du 19e siècle, on ne peut plus aujourd'hui piller nos ressources parce qu'elles sont limitées, certes, mais nous sommes en termes de durée dans l'urgence. On a parlé du réchauffement climatique. C'est vrai que tous les indicateurs sont au rouge, mais malheureusement, il va falloir aussi qu'on fasse preuve d'intelligence collective pour créer le monde de demain. Et aujourd'hui, c'est vrai que le slogan, c'est « Un autre monde est possible ». Et ben moi, j'ai tendance à dire qu'un autre monde existe et qu'il est déjà présent, donc il faut le faire émerger.
Vous parliez justement de ce projet comme s'adressant à un public d'initiés. Benjamin Tin, qu'est-ce que c'est votre avis aussi? On peut s'interroger encore une fois sur le terme d'open source qui s'adresse aussi à un public d'initiés à la base.
Oui, effectivement, initialement, l'open source et ses modes d'innovation, de fabrication viennent d'un public d'initiés. Alors, dans le cas des objets physiques, donc dans POC21, on a par exemple un concentrateur solaire, on a une cuisine à basse consommation, une bouilloire à basse consommation, des outils pour l'agriculture urbaine, etc. Dans ce cadre-là, donc, c'est ce qu'on appelle l'écosystème des makers, encore un mot anglais qui est difficile à traduire en français.
Des faiseurs,
des gens qui fabriquent effectivement, hein, c'est que ce soit un car maker, on peut mettre n'importe quel mot devant, et qui utilisent finalement des ateliers partagés, qu'on appelle des ateliers de fabrication, des Fab Labs, Fabrication Laboratories, laboratoires de fabrication, qui poussent un petit peu comme des champignons sur les territoires. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une communauté, une ingéniosité très très forte qui vient de ces écosystèmes. Mais il y a peut-être, comme Karima le disait avant, il y a peut-être une difficulté justement à transformer l'essai auprès du grand public aujourd'hui. Ça s'adresse à un public d'initié.
Ça va être l'objectif de votre village
écologique. Voilà, c'est exactement l'objectif. C'est finalement de mettre ces projets à avec des experts, des bénévoles, des gens qui vont les aider, par exemple, sur le design de leurs produits, sur leur communication, sur la technique, sur le modèle économique, et j'en passe, et qui vont peut-être les aider à parcourir une partie du bout de chemin qui les sépare d'une meilleure compréhension, d'une meilleure adoption par le grand public.
Mais justement, quand vous dites on va essayer de transformer l'essai auprès du grand public, moi je m'interroge sur les projets que les différentes équipes sélectionnées vous ont présentés. Quand vous présentez justement ces équipes sur le site internet de la POC 21, vous parlez d'ingénieurs, de personnes spécialisées dans la robotique, de menuisiers. Ce que l'on sait moins, c'est la manière dont les différents projets ont été qualifiés comme importants, comme répondant à un vrai besoin. Qu'est-ce qui a choisi ? Est-ce que ce sont des collègues à vous ? Est-ce que vous avez soumis ces idées à un panel d'utilisateurs, d'usagers ?
Alors, on a lancé un appel à projet au début d'année. On a reçu à peu près presque 200 candidatures, à peu près, essentiellement d'Europe et un petit peu au-delà. Et en fait, on les a passés en revue. On a fait une présélection d'une trentaine de projets qu'on a tous interviewés. Et en fait, on est parti sur un prérequis, c'est qu'il fallait qu'il y ait déjà un prototype existant et fonctionnel pour que le projet soit sélectionné. Et ensuite, on a soumis un petit peu à différents partenaires académiques qui nous accompagnaient pour avoir leur avis. Mais c'est essentiellement avec l'équipe qu'on a choisi les projets.
Un autre projet du même genre que le vôtre a vu le jour aux États-Unis en 2008, à plus grande échelle encore, c'est l'Open Source Ecology, l'OSE. Une centaine d'ingénieurs et de fermiers américains ont travaillé sur des innovations écologiques. Ils ont mis en place des kits de construction qui sont aussi disponibles en ligne. Et l'idée de départ, selon son instigateur, c'était de fournir un kit de démarrage de la civilisation. C'est-à-dire que les personnes qui participent à ce projet ne doivent pas concevoir que des machines, mais ils doivent répondre à des besoins essentiels pour vous. Vincent Liégé, c'est avant tout sur ce concept de besoin qu'on doit se pencher avant de penser innovation.
Ouais, je crois que c'est la question principale qu'on se pose trop peu aujourd'hui dans notre modèle de société. C'est la première question de qu'est-ce qu'on produit et pour quel usage. Et moi qui suis ingénieur de formation, comme on dit souvent, la seule énergie qui est non polluante, efficace, renouvelable, etc., etc., c'est celle qu'on ne consomme pas. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire dans un premier temps sur le fait de rentrer dans une société de simplicité volontaire, de sobriété heureuse. Et on retrouve là aussi des dynamiques extrêmement fortes à travers le monde entier autour de ces questions-là. C'est-à-dire qu'il y a des démarches citoyennes toujours plus fortes pour consommer moins, pour se réapproprier ses consommations, ses manières de produire, se réapproprier du temps libre lorsque cela est possible. Et moi, je parle un peu d'une transformation silencieuse de la société qui est en train de s'opérer, que l'on peut retrouver notamment en France et pas qu'en France d'ailleurs, dans les alternativas, ou qu'on pourra retrouver dans différentes rencontres, différents mouvements autour de la permaculture, de l'agroécologie, l'agroforesterie, autour du faire soi-même, le do it yourself, autour de beaucoup de mouvements où les citoyens, individuellement, collectivement, commencent à s'organiser pour se réapproprier le sens de leur consommation et de leur production, pour aussi mettre en place des modèles économiques qui sont beaucoup plus justes, pour aussi se réapproprier la démocratie, pour avoir plus de choix, de décisions directes sur les technologies, etc.
Et est-ce qu'en ce sens, projet de Benjamin Tinck de la POC 21 répond à ce que vous êtes en train de signifier, ce besoin de se réapproprier justement ces exigences-là et ces questions-là?
Exactement, et je crois qu'on retrouve à travers ces expérimentations beaucoup d'autres qui portent d'autres noms, qui sont faits sous le nom de la décroissance ou de la transition ou de beaucoup d'autres slogans qu'on voit apparaître un peu partout à travers le monde. Mais moi, de mon point de vue, je pense que, et étant moi aussi extrêmement impliqué dans ce type d'initiative locale, dans lesquelles on a la chance de se réapproprier aussi du bien-être.
Quel type d'initiative, par exemple ?
Donc moi, par exemple, à Budapest, on a créé avec quelques amis un atelier d'autofabrication et de réparation de vélos et de solutions low-tech pour répondre aux problèmes de transport en milieu urbain, même de transport de marchandises. Et on travaille en coopération avec des gens qui font du pain organique avec des semences traditionnelles ou des légumes en biodynamique pour distribuer dans Budapest en vélo cargo avec des remorques, ces légumes. Donc on est dans l'expérimentation, on essaye de montrer que des alternatives existent. Et en même temps, quand on se retrouve dans ce genre d'initiative, on se rend compte aussi qu'on ne peut pas oublier le monde qui est autour de nous, dans lequel on vit. Juste deux exemples, c'est-à-dire que d'un point de vue économique, il est très difficile de survivre puisqu'on est en compétition, même si on a envie de sortir de ce modèle économique dominant. On est en compétition avec les grandes distributions qui, elles, bénéficient de beaucoup de subventions publiques, bénéficient de toutes les infrastructures qu'on finance à travers nos impôts, ce qui fait que lorsqu'on va acheter des tomates dans un supermarché, on ne paye pas le prix réel de ces tomates. En plus, les gens qui les produisent ne sont pas nécessairement bien rémunérés. Donc on pose la question aussi de l'intervention politique, économique, pour pouvoir soutenir, non pas faire à la place des citoyens, mais pouvoir permettre aux citoyens de se réapproprier toujours plus ces questions-là. Et puis aussi, on se rend compte que face aux grands enjeux qui étaient évoqués dans le journal, par exemple, ce soir à 18h, on parlait de la question de l'immigration. Aujourd'hui, la Hongrie est devenue la porte d'entrée première des immigrés, qui a eu plus de 100 000 personnes qui sont arrivées.
C'était le sujet de lundi dernier dans Du Grain à Moudre.
Plus de 100 000 personnes qui sont arrivées. Et là, en tant que citoyen, on a beau essayer de s'organiser avec les différents collectifs à Budapest pour soutenir ces populations qui font face à des conditions très compliquées pour se nourrir, pour se loger, pour boire, etc. On se rend compte que l'organisation citoyenne est très loin d'être suffisante par rapport à ces grands enjeux géopolitiques.
C'est
donc il y a le besoin aussi d'occuper l'enjeu, la place politique par rapport à ces questions-là.
C'est justement la question principale, en tout cas celle qu'on est en train de poser en ce moment, c'est à qui ce genre de projet s'adresse et comment ce genre de projet doit s'adresser aux gens qu'elle vise. Karima Deli, sur cette question.
Ben, moi, je crois que ce genre de projet, d'une part, il doit être... Il doit se multiplier. C'est-à-dire que moi, je considère qu'aujourd'hui, les initiatives qui sont bonnes, hein, vous avez parlé de Alternativa, qui est une structure qui montre que les solutions existent. On a les solutions aujourd'hui, et elles se déclinent dans tous les secteurs, mais elles ne sont pas visibles. Et c'est vrai qu'il faut parler de solutions pour l'instant qui ne sont pas visibles.
Moi, ce que je... Pas visibles du grand public.
Je pense qu'elles ne sont pas assez relayées médiatiquement, qu'elles ne sont pas assez multipliées pour pouvoir en faire réellement des standards, parce qu'aujourd'hui, on est en train de créer le 21e siècle. Alors maintenant, la vraie question, c'est qu'il y a des populations, je pense que c'est pour ça que moi je parle d'écologie populaire. Pourquoi ?
On va y venir, oui.
Parce qu'on sait très bien que l'ensemble des catastrophes naturelles, et notamment le dérèglement climatique aujourd'hui, les premières victimes sont toujours les mêmes, c'est-à-dire ce sont notamment les personnes qui sont dans des situations de précarité énormes ou dans les pays pauvres. Et vous avez parlé notamment des flux migratoires. C'est un phénomène qui est dû aussi à l'emballement climatique. Mais il y a d'autres phénomènes. Il y a la question de la sécheresse derrière. Il y a la question des montées des eaux, etc. Donc il va falloir aussi à nous d'être un peu plus... dans l'accompagnement, pourquoi ? Parce que les grands bouleversements vont engendrer des mutations qui seront énormes. Vous avez parlé de l'exemple notamment du transport. Le phénomène, par exemple, des pollutions dans les villes est extraordinaire aujourd'hui. Ça, c'est visible et les populations aujourd'hui, parfois, ne savent pas quoi faire. Vous avez parlé de la mutation des modes de production ou de consommation. Il va falloir y travailler également. Mais moi, je crois aujourd'hui, c'est de voir qui sont aussi les personnes qui seront les premières victimes. Alors moi,
qui seront donc les premières concernées par les innovations de demain aussi, qui doivent être les premières concernées.
Voilà.
Est-ce que c'est là que par exemple, les nouveaux projets, le projet de Benjamin Tinck doit commencer ? Est-ce que c'est par là ? Est-ce que c'est par, justement, d'aller voir les populations qui peuvent être concernées ? Est-ce que ce genre d'innovation peut, à terme, s'intéresser au problème de la précarité énergétique, par exemple ? Apporter des solutions ?
Alors, moi, je pense qu'il faut se servir de cet événement qui sera un événement mondial. C'est un basculement. On a l'opportunité aujourd'hui de se servir de la COP21 pour aussi montrer que les solutions existent pour les populations les plus précaires. Je donne un exemple très concret. Par exemple, quand vous regardez à la périphérie des villes, c'est souvent des quartiers qui sont dans des logements sociaux, qui sont très mal isolés, qui paient des factures énergétiques qui explosent parce que le prix d'énergie va augmenter. Et ensuite, il y a aussi des personnes qui, aujourd'hui on parle de précaires énergétiques, c'est-à-dire qui dépensent énormément d'argent pour payer leurs factures, mais il y en a d'autres qui ont décidé de ne plus se chauffer. Ça veut dire qu'ils sont dans la décroissance qui, elle, est subie. Il ne faut pas qu'on ait une décroissance aussi subie. Donc, il faut apporter des solutions, rien que la rénovation du bâtiment. Le bâtiment concerne 30% des gaz à effet de serre. Si on rénove les bâtiments, notamment pour ces populations, c'est un gain financier pour ces populations, c'est un bien-être pour ces populations, mais c'est surtout un levier d'action énorme en termes de création d'emplois.
Justement, parce que, dans un billet que vous avez écrit sur votre blog intitulé « Précarité énergétique, les fils de pauvres au bûcher ?», point d'interrogation, vous avez écrit « Un gouvernement responsable mettrait d'urgence en place une politique de sobriété énergétique ». Est-ce que la loi de transition énergétique votée il y a quasiment 3 semaines ne répond pas encore, selon vous, à cette urgence ? Est-ce qu'on a besoin, du coup, que des personnes issues d'entreprises, de collectifs, s'attellent justement à trouver des solutions ?
Ben, moi, je crois que, et je le dis avec beaucoup de... Je le dis clairement, il y en a un peu ras-le-bol. Il faut cesser les discours politiques entre les actes et réellement les paroles. Pourquoi ? Parce que tout le monde, tous les grands politiques, quand je vois les chefs d'État qui disent que le réchauffement climatique, c'est très urgent, etc., et quand je vois ce qu'on vote, notamment dans les différents États, et notamment en France, je me dis qu'on a un problème. Parce que ça décrédibilise la classe politique, d'une part, et surtout, c'est qu'on ne répond pas à notre urgence, ce sont les générations futures.
Là, je ne vous parle pas de discours, mais de la loi de transition énergétique, par exemple, de loi.
Mais moi, je viens sur la loi de la transition énergétique. Nous sommes en 2015. Il a fallu 3 ans pour mettre en place une transition, la loi sur la transition énergétique, qui, selon moi, est un premier levier, mais nous ne sommes pas assez ambitieux. Je donne un exemple très concret, encore une fois, parce que moi, je travaille à l'Europe sur la question des transports. Je suis ulcérée par le fait que la France n'est toujours pas d'écotaxe, c'est-à-dire qu'on fait payer les pollueurs. Il est urgent d'avoir cette fiscalité écologique. Nous n'avons toujours pas...
Est-ce que c'est parce que la politique est en retard sur ces questions qu'une mobilisation de l'électorat écologiste, de militants qui ne sont plus au rendez-vous est là aujourd'hui ?
Ben, moi, je crois qu'on en est, on est dans cette situation-là parce qu'il faut que les politiques aussi comprennent que nous sommes dans une transformation. Le mot transformation aujourd'hui a été par mes autres interlocuteurs a été vraiment utilisé plusieurs fois. Je pense qu'il faut qu'ils comprennent que le monde a changé. On ne peut pas rester dans des vieilles positions et des solutions du passé. Le 19e siècle et le 20e siècle s'est passé pour rentrer dans le 21e siècle. Et je crois réellement, et c'est pour ça que je suis un peu en colère, parce que la France est en retard lorsqu'on est aux tables de négociation, notamment sur, je ne sais pas, il n'y a pas de fiscalité écolo en France. On est le 25e pays sur les 28 à ne pas avoir de fiscalité écolo, alors que la fiscalité écolo, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde avec des investissements intelligents. Et derrière, c'est aussi de la création d'emplois. Donc ça, je ne comprends pas pourquoi on a pris du retard. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, moi, je me souviens de cet épisode où, lors du rapport du GIEC, le rapport du GIEC qui énonce l'extrême gravité dans laquelle notre planète est, qu'on a un président de la République qui va soutenir, notamment au Canada, en disant il faut exploiter des sables bitumeux, qui est le pétrole le plus affreux qu'on puisse trouver, et soutenir ça parce que derrière, il y a des grandes entreprises, notamment Total, j'ai un véritable problème parce que c'est là où la décision politique doit revenir aux politiques.
Alors, on va y revenir dans un instant, mais juste avant, je voudrais entendre Benjamin Tinck sur la question. Je posais justement la question à Karima Deli, si ce genre d'initiative, celle que vous menez, que vous allez mener dans quelques jours, donc le 15 août, dans le domaine du château de Millemont dans les Yvelines, naît d'un vide politique. Est-ce que c'est parce que il n'y a pas assez de mesures, pas assez de mobilisation sur le plan politique que des collectifs se mobilisent pour faire avancer l'innovation écologique, le discours écologique et surtout l'implication des acteurs de la société dans ces questions?
Dans notre cas, ce n'est pas forcément une réponse à un vide politique en tant que tel, c'est simplement Voilà, c'est une volonté en fait tout simplement d'expérimenter, de proposer des projets, des solutions concrètes, et en fait plutôt que de.
D'où est née cette envie justement alors?
C'est né de conversations avec nos partenaires allemands. Donc le projet est coproduit par l'association WeShare et l'association OpenStead qui est basée en Allemagne. Et voilà, d'une vision partagée du rôle que peut jouer l'open source et la fabrication distribuée, de relocaliser la production sur les territoires avec les Fab Labs, les Makerspace et tout ce mouvement. Et du fait de se dire... Profitons de l'opportunité qu'est de mobilisation qu'est la COP21 pour justement porter ce message qu'un nouveau système de consommation et de production est possible. Mais si on le fait, ne le faisons pas simplement en communiquant avec un rapport, etc. Mais essayons de le démontrer, de faire un proof of concept. C'est ça que veut dire POC21, c'est un démonstrateur finalement. Et le but du projet, c'est d'être un démonstrateur d'un nouveau système de production et de consommation entier. On parlait juste avant, Karima Adeli parlait de la question des transports. Aujourd'hui, je sais plus quel est le ratio exactement, mais si on prend n'importe quel objet manufacturé aujourd'hui standardisé, je crois que c'est quelque chose comme 60 ou 80% du coût total de fabrication d'un objet qui est lié à la logistique et au transport et aux chaînes logistiques qui sont immenses et réparties sur tous les continents. Si on se disait qu'on relocalisait finalement une grande partie de la production et qu'on finalement on partage gratuitement l'information, ce qui est léger, ce qui est global, donc les savoirs, et par contre on va chercher à relocaliser, fabriquer localement la plupart des objets, c'est ce que Barcelone essaye de faire. Barcelone est en train de monter un Fab Lab dans chacun des quartiers de la ville.
Donc un laboratoire de fabrication.
Oui, pardon, un laboratoire de fabrication. Donc c'est le lieu dans lequel vous allez trouver toutes ces machines, donc des imprimantes 3D, des coupes laser, des outils plus traditionnels, un marteau aussi, etc. Et dans lesquels les gens viennent utiliser cette infrastructure partagée pour y développer leurs projets et leurs solutions, mais pour répondre à des besoins locaux à partir de ressources locales.
Vincent Liégé, sur cette question de la mobilisation, est-ce que c'est... Enfin, vous qui êtes le porte-parole du Parti pour la décroissance, donc qui est resté dans le discours politique, est-ce que la mobilisation écologique, écologiste, doit forcément s'inscrire dans une mobilisation politique? Est-ce que ça ne peut pas se dissocier à un moment donné?
Mais je crois qu'il faut rester un pied dans la politique, puisque c'est aujourd'hui des institutions démocratiques qui nous sont offertes par ce modèle de société. Il est vrai que la plupart des personnes impliquées dans ces alternatives concrètes, etc., et moi le premier, on a tendance à se désintéresser toujours plus de cette politique politicienne qui est très souvent, en plus, montrée dans les médias de manière tout à fait caricaturale et inintéressante, alors que dans les alternatives concrètes, on se réapproprie la politique avec un grand P, la vie de la cité, on se réapproprie le sens que l'on vit donner à nos sociétés. On se réapproprie l'autonomie au sens de Cornelius Castoriadis, une forme de démocratie directe. Mais je crois qu'il ne faut pas abandonner ce pied-là. Le problème, il est, c'est qu'on est pris dans des institutions qui sont intimement liées, en termes d'imaginaire et aussi d'un point de vue technique, intimement liées au toujours plus de croissance, où c'est ce qu'on nous dit en permanence, que sans croissance, on ne peut pas répondre à la question écologique, sans croissance, on ne peut pas répondre à la question sociale. Donc on est tout le temps pris entre... Ce paradoxe, cette schizophrénie où d'un côté on dit « Ah mais toujours plus de croissance nous fait produire toujours plus, nous fait consommer toujours plus et donc s'attaque toujours plus aux questions environnementales » et d'un autre côté on a besoin de la croissance pour répondre au problème du chômage, pour répondre au problème des inégalités, etc. Et nous avec la décroissance on interpelle par rapport à ça, on pense que le problème n'est pas l'absence de croissance mais le problème est le paradigme de la croissance, la centralité de la croissance, du toujours plus dans nos systèmes économiques et politiques, et qu'au contraire, il faut commencer à penser d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, et au-delà même d'un point de vue symbolique, culturel, social, il faut commencer à penser l'après-croissance, il faut commencer à penser un projet de société. On n'est pas toujours en train de croître pour croître, mais on est dans des sociétés qui sont beaucoup plus justes, beaucoup plus relocalisées, beaucoup plus solidaires, où on est capable de se réapproprier le sens des limites. Le sens des limites en termes de qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, pour quel usage, de se réapproprier tout simplement une certaine forme de bon sens, de mesure qui était au cœur de toutes les civilisations. Et aujourd'hui, on est dans une civilisation qui s'est totalement perdue dans le toujours plus. Et on ne sait pas pourquoi, on le voit, on n'est pas capable de répondre aux besoins fondamentaux. On n'est pas capable de faire preuve de solidarité par rapport à toutes ces populations qui arrivent dans nos pays et qui sont des populations qui fuient des pays où des guerres ont été déclarées pour qu'on puisse contrôler les ressources fossiles dont on a besoin pour continuer à faire tourner notre système de croissance. On n'est jamais capable de comprendre globalement l'ensemble des problèmes qui sont intimement liés et d'y apporter des solutions qui ont du sens, c'est-à-dire de prendre à la racine l'ensemble de ces problèmes.
Alors il y a beaucoup de constats et vous déplorez beaucoup justement ce que le discours politique n'arrive pas à faire aujourd'hui. Je pense à une étude que j'ai vue passer sur, qui s'appelait Développement et justice sociale, où on montrait que le développement d'une ville verte peut conduit souvent à la hausse des inégalités au sein de la ville, que la reconstruction écologique d'un endroit correspond souvent à la gentrification, c'est-à-dire au remplacement de couches populaires par des couches plus aisées. De quoi les politiques écologiques aujourd'hui doivent-elles s'accompagner pour créer, comme vous le disiez, par exemple Vincent Liégé, plus de justice sociale ?
Mais je crois que là aussi, quand on parle d'écologie, on pense que c'est juste un problème dans notre système politique, économique, etc. Alors qu'on vit dans l'écologie, on vit sur une planète qui s'appelle la Terre, on passe notre temps à tirer sur un stock fini de ressources, que ce soit les énergies fossiles en premier lieu, le pétrole, et puis aussi un certain nombre de métaux, etc. Et puis après, tout ce qui tourne à des cycles naturels et qui nous permettent de produire de la nourriture, par exemple. Et on est incapable de penser l'écologie dans sa globalité.
Et qu'est-ce qu'il manque alors pour le faire, justement ?
Très souvent, les politiques, les ingénieurs, les économistes sont dans une approche de l'écologie. On essaye de poser des rustines ici ou là. On essaye de ne pas changer la recette en essayant de rajouter un peu plus de choses ici ou là, que ça va créer de l'emploi. Là où on va essayer de tirer un peu moins sur les énergies fossiles, on va tirer plus sur d'autres ressources naturelles comme des métaux, les terres rares, par exemple avec les énergies renouvelables, en pensant qu'on peut continuer à faire la même chose en changeant juste à la marche un petit peu les choses. Alors que lorsqu'on regarde les ordres de grandeur en termes d'un point de vue purement physique, et puis les ordres de grandeur aussi d'un point de vue social, c'est-à-dire qu'on vit dans des sociétés qui sont extrêmement riches mais qui sont extrêmement malades, que ce soit les consommations d'antidépresseurs, le stress au travail, le suicide, les inégalités, la violence, la montée de l'insignifiance par exemple, on se rend compte que le problème est beaucoup plus complexe. Et si on n'arrive pas à penser dans toute la globalité tous ces problèmes, on va rajouter du logement vert ici ou là, de l'isolation ici ou là, une éolienne ici ou là, tout en continuant à faire la même chose. Nous, on pense que c'est la recette qui est toxique et qu'il ne faut pas rajouter un peu tel ingrédient ou quoi que ce soit, mais il faut repenser la recette de manière globale. C'est-à-dire qu'il faut penser l'occupation, la relocalisation des territoires avec les personnes qui y vivent, dans leur complexité, leur diversité sociale, culturelle, d'origine, etc. Il faut repenser comment on peut produire localement ce qui a du sens d'être produit localement, pour des raisons écologiques, pour des raisons d'efficacité énergétique évidentes, mais aussi pour des raisons de sens. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans des sociétés qui sont relocalisées, lorsqu'on s'inscrit par exemple dans une alternative concrète, on n'est plus dans un système qui est basé sur l'économie à grande échelle, sur la loi, sur des règles toujours plus difficiles, avec des avocats, avec des conflits, etc. Mais on est sur des relations de convivialité, on est sur des relations de confiance, on est sur des interactions continues qui fait que des choses qui sont acceptables aujourd'hui dans notre société, de faire travailler des enfants par exemple pour produire des choses que l'on consomme de manière tout à fait naturelle dans les supermarchés, sont généralisées. Alors que dans une société relocalisée, on aurait du mal à faire travailler les enfants de ses voisins ou ses propres enfants parce qu'on se poserait la question, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est acceptable ? Et de la même manière pour l'environnement, on accepte de détruire des environnements qui sont très loin de chez nous parce qu'on n'est jamais face assez aux conséquences de nos actes de consommation.
Je voudrais entendre Karima Deli sur cette question. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'approche de Vincent Liégé sur ce que n'a pas su faire jusqu'à maintenant l'écologie politique ?
Il faut faire attention parce que moi, je ne vais pas tomber dans la caricature du politique. Il faut faire attention parce que moi, je suis un peu jeune, mais moi, je me
Vous avez 36 ans.
Je me souviens juste combien d'écologistes avant l'heure ont été un peu pointés du doigt, ridiculisés. Moi, je me souviens de cette fameuse image de René Dumont qui levait le verre d'eau et qui disait que cette eau risque d'être une eau buvable à l'heure actuelle, alors que dans les années à venir, elle ne le sera plus. Et c'est là où moi, j'ai un véritable problème. C'est-à-dire que si on avait écouté beaucoup plus avant l'heure les écologistes, je pense que la résolution de la situation un peu catastrophique dans laquelle on est, elle serait moins dramatique en termes notamment humains, mais aussi en termes du point de vue économique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez parlé justement des politiques. Il faut faire attention parce que on parle des politiques en général, sauf que il y a des politiques qui essayent. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Vous savez, au Parlement européen, nous les écologistes, il est certes qu'on a un groupe, mais nous sommes minoritaires. Et parfois, eh ben les poids des lobbies sont tellement lourds et difficiles que certains politiques, au lieu justement d'être des prospectivistes, c'est-à-dire de voir le futur, d'essayer d'imaginer, en tout cas de comprendre du réchauffement climatique et d'essayer de faire en sorte que demain, on ne soit pas dans dans ce même scénario. Aujourd'hui, on voit bien que le poids des lobbies est important et que il va falloir aussi lutter contre ça et que les chefs d'État, et ça, il faut le dire, quand on est 28 autour de la table, c'est pas l'intérêt collectif qui est en jeu. Et c'est ça le drame aussi.
Vous parliez d'Europe Écologie Les Verts, Karima Deli. Je voudrais juste qu'on s'atteinte sur ce point. L'année dernière, le parti a publié une radiographie de l'électorat vert. Donc ce serait plutôt, d'après cette radiographie, une femme âgée de 35 à 64 ans, cadre sup ou retraitée, et plutôt urbaine. Mmh. Et vous-même, Karima Deli, vous l'avez dit au cours de cette émission, vous voulez défendre une écologie populaire, donc pas vraiment en phase avec cette radiographie. Qu'est-ce qui manque à l'écologie, en tout cas à l'écologie politique que vous pratiquez au sein d'Europe Écologie Les Verts, pour la rendre plus populaire, plus accessible, plus concernante pour l'électorat actuel?
Déjà, il faut savoir que les classes populaires font déjà de l'écologie. C'est-à-dire que, par exemple, elles ne sont pas dans la consommation à outrance parce qu'elles ne peuvent pas. Elles font attention, et je peux vous le dire, elles font attention à l'eau. Elles font attention à l'énergie, elles font attention à énormément de choses. Moi, je crois que c'est le modèle qu'il faut changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un livre de Hervé Kempf qui le dit très bien, ce ne sont pas les classes les plus précaires qui détruisent la planète, c'est les classes les plus riches qui détruisent la planète. Et en même temps, il ne faut pas un conflit entre les populations. Il faut changer de modèle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un modèle culturel qui est dicté un petit peu par les classes dominantes, où aujourd'hui, il faut se souvenir de cette fameuse phrase de Jacques Séguéla qui avait dit « Si tu n'as pas ta Rolex avant 50 ans, c'est que tu as raté ta vie ». C'est-à-dire on est dans cette course à...
Mais là, si on se concentre sur la stratégie de ELV pour récupérer des militants, justement, qu'est-ce qu'il manque pour remobiliser l'électorat vert aujourd'hui, par exemple ?
En tout cas, moi, je dis aujourd'hui, c'est que je crois qu'il faut arrêter de parler d'alliance politique. Moi, ça ne m'intéresse pas. Les jeux, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, les jeux politiciens, ça ne m'intéresse pas. Moi, je voudrais juste qu'on parle réellement de nos fondamentaux. C'est réellement qu'on parle de l'écologie. Aujourd'hui,
la mobilisation écologiste, pardon.
La mobilisation écologique, elle a été lancée notamment par notre parti avec une campagne européenne, mais aussi une campagne française avec un slogan qui s'appelle « Je sauve le climat ». C'est de montrer à quel point, parce que les citoyens sont prêts à agir, notamment concernant...
Vous aussi, d'ailleurs, vous reprenez les codes de l'open source lors de vos prochaines journées d'été. Vous appelez les militants à venir partager leurs idées avec ce hashtag « Je sauve le climat », justement, que vous appelez d'ailleurs un atelier. Vous reprenez tous les termes.
Voilà, c'est ça. Et c'est pour montrer que les citoyens sont prêts à agir si on leur montre qu'il y a des solutions qui existent. Donc c'est aussi une question de croyance. Lorsqu'ils voient que quelque chose fonctionne, ça leur donne envie, notamment, d'aller plus loin et de multiplier l'initiative. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est très difficile de parler d'écologie et de faire en sorte qu'il y ait une espèce de croyance qui soit partagé par le plus grand nombre. Tout à l'heure, vous avez parlé de la pauvreté. J'ai oublié votre nom, pardon, notre...
Vincent Liégé.
De la décroissance.
Vincent Liégé, rapidement, oui.
Voilà, vous avez parlé de des migrations, des conditions déplorables, etc. Il n'y a pas aujourd'hui... On devrait avoir justement un mouvement de mobilisation incroyable pour lutter justement contre les conditions dans lesquelles, par exemple, les migrants sont. On voit bien qu'il faut aujourd'hui créer une espèce de croyance autour du discours de l'écologie. Pourquoi ? Parce que si on ne croit pas...
Ça, on est bien d'accord, mais la question, c'est comment. Et malheureusement, on n'aura pas vraiment le temps d'aller au bout de la question parce qu'on va devoir s'arrêter. Mais juste un mot de conclusion. Comment on peut la créer en un mot, cette croyance ?
C'est de dire, nous sommes tous des ambassadeurs du climat. Nous sommes tous des citoyens. Ne soyons pas les spectateurs de ce qui va se passer à Paris. Soyons des acteurs et mettons la pression au chef d'État pour que cet accord sorte d'un accord contraignant, ambitieux et qui soit appliqué. Et donc, il faut créer COP de Paris, il faut en faire un Seattle du climat.
Merci beaucoup. Nous allons devoir nous arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous, Benjamin Tinck, Vincent Liéger et Karima Deli. Mais restez encore avec nous quelques minutes. Dans la continuité de ce qu'on venait de dire à l'instant, parce qu'on ne quitte pas l'écologie comme ça. Bonjour Anne Thézenas Dumoncel.
Bonjour.
Avec vous, on passe de la POC à la COP21. Comme tous les jeudis, en partenariat avec le Parisien Magazine, vous venez nous raconter les coulisses de la conférence climat qui aura donc lieu en décembre prochain à Paris. Et pour cette semaine, l'épisode 7, Anne, vous nous parlez du rôle que les gouvernements comptent bien donner aux entreprises dans le cadre de cette conférence climat.
Oui, absolument. Les entreprises vont être tout à fait associées à la dynamique de la COP21. Et je me souviens de ce qui s'est passé il y a un an à New York lorsqu'il y a eu d'abord un événement dans les rues de Manhattan puisque Laurent Fabius, Ségolène Royal et Annick Girardin manifestaient avec 300 000 autres personnes pour le climat. Mais un peu plus tard dans la journée, il y avait donc dans l'enceinte de l'ONU, dans le cadre de ce Climate Summit organisé par l'ONU, les héritiers Rockefeller. Et les héritiers Rockefeller, ce sont les successeurs du fondateur de la Standard Oil, donc ancêtre des Sceaux et d'ExxonMobil. Et ils sont venus pour dire que leur fondation n'investirait plus un seul dollar dans les énergies fossiles. Donc ça, c'est une annonce extrêmement symbolique. Dans la foulée, 15 autres multinationales, dont IKEA et Nestlé, prenaient l'engagement de s'approvisionner à 100% en énergie renouvelable à partir de 2020. Et en mai dernier, ce sont les pétroliers Total, Shell, BP qui demandaient aux États d'établir un prix du carbone. Il y a quelques jours, 13 multinationales américaines, dont Walmart et Coca-Cola, qui annonçaient qu'elles allaient très très fortement réduire leurs émissions de CO2. Donc, il se passe quelque chose.
Et toutes ces marques que vous venez de citer, Anne, ne sont pas vraiment ce qu'on pourrait appeler d'habitude des marques ambassadrices de valeurs écologiques. Alors, est-ce qu'on doit vraiment y croire ? Et est-ce qu'il y a un vrai changement pour autant ?
Alors, c'est clair que la présence d'une COP comme la COP21, ça a tendance à générer des discours verts un peu partout. Mais je crois que plus sérieusement, il y a un vrai tournant. En mai dernier aussi, Brice Lalonde et Entreprises pour Environnement ont organisé un très grand rassemblement d'entreprises sur le sujet. Et pourquoi est-ce qu'il y a un tournant, tout simplement parce que les entreprises commencent à voir les coûts du réchauffement climatique dans leur bilan financier. Les compagnies d'assurance ont vu doubler le coût des catastrophes naturelles. Rien que pour AXA en 2014, 1 milliard d'euros sur les catastrophes naturelles. Elles disent même, les compagnies d'assurance, qu'avec un monde à 2 degrés, il n'y aura plus d'assurance possible.
Et elles ont peur aussi, on imagine, de voir leur valeur s'effondrer en bourse.
Absolument, parce que là aussi, il se passe des choses dans le monde financier. Aux États-Unis, 65 gros investisseurs américains ont demandé à l'autorité des marchés financiers d'évaluer les risques que courent les entreprises qui extraient des énergies fossiles. Donc, l'idée quand même de beaucoup d'entreprises, c'est de se dégager de tout ça, comme vient de le faire AXA. Autre idée qui peut être aussi provoquer des changements fondamentaux, celle de calculer les coûts environnementaux des décisions qui sont prises à l'intérieur des entreprises. Ça peut changer beaucoup de choses.
Et alors, est-ce que la France peut vraiment profiter de ce mouvement d'implication des entreprises dans ces enjeux climatiques ? Et si oui, comment, Anne ?
Alors, très clairement, la présidence française veut surfer sur cette vague, voire même la susciter, l'accompagner. L'idée de la présidence française, c'est de déployer une économie sans carbone. Et pour joindre, je dirais, le geste à la parole, ils ont créé un portail qui s'appelle NASCA, sur lequel n'importe qui peut d'une part annoncer ce qu'il compte faire, donc entreprises, ONG, associations, citoyens, ce qu'il compte faire pour le climat, et donc et qu'on peut consulter à tout moment. C'est un portail qui a été créé par l'ONU avec les présidents péruviens de la COP précédente.
Eh bien, merci beaucoup Anne Thézenas Dumoncel. On peut vous lire dès demain dans les pages du Parisien Magazine. Merci également à nos trois invités de ce soir, Karima Deli, eurodéputée TELV. Benjamin Tinck, fondateur de la plateforme WeShare et porteur de la POG 21 qui se tient dès ce week-end dans le domaine du château de Millemont dans les Yvelines du 19 et qui se finit le 20 septembre prochain. Toutes les informations seront à retrouver sur notre site internet. Vincent Liégé, aussi porte-parole du Parti de la décroissance. Faut-il se réapproprier l'écologie? C'est la question à laquelle nous avons tenté de répondre ce soir. Merci également à Raphaël Formet et à Charlotte Enbil de France Bleu Bourgogne qui nous a permis d'être en lien avec Vincent Liégé à Dijon. Demain, une toute autre question. Saurons-nous un jour sourire à nos touristes? Très bonne soirée à tous et à demain.